بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, الحمد لله رب العالمين. On remercie Allah Azza wa Jal, on le glorifie. Et on remercie également tous les frères qui ont travaillé pour faire en sorte que ce genre d'événement puisse se produire. Les frères du centre Al-Furqan de Belgique, qu'Allah Azza wa Jal les soutienne et les aide et continue à les garder sur la droiture et dans le bien. Le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est l'importance de la aqidah par rapport à l'islam. Et on sait qu'en islam, la aqidah, c'est la chose la plus importante. Il n'y a rien qui est plus important que la aqidah. Et même si c'est certain que Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il nous a créés pour l'adoration, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, on a été créés pour adorer Allah seul. Mais que signifie cette adoration sans le tawhid? Il est clair que, peu importe la quantité des adorations qu'on fait, si les adorations qu'on fait ne sont pas établies sur le tawhid, eh bien, ces adorations-là ne seront pas acceptées d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est fondamental pour le musulman de connaître le tawhid et de comprendre la aqidah et de savoir ce que ça signifie. Le terme aqidah en arabe, il vient du verbe aqada ya'qidu, qui signifie le fait de nouer, faire un nœud. Et lorsqu'on parle de la aqidah par rapport à la religion, eh bien, c'est dans le sens de nouer le cœur, de faire un nœud dans notre cœur sur la conviction d'avoir la conviction et d'avoir la foi ferme et certaine. La foi et la conviction. Et c'est pas n'importe quelle aqidah qui nous est ordonnée d'avoir, mais une aqidah spécifique. Parce que lorsqu'on dit aqidah, on peut vouloir dire une aqidah qui est sahiha, une aqidah qui est valide, qui est bonne, qui est correcte. Puis aussi on peut dire aqidatun batilatun, c'est-à-dire une aqidah qui est fausse, qui est incorrecte. Donc c'est pas seulement le terme, le fait de dire aqidah qui fait que quelqu'un, du moment qu'il parle de aqidah, que ça veut dire qu'il est sur la vérité, sur le tawhid. Par exemple, les chrétiens ont une aqidah, les juifs ont une aqidah, et les soufis ont une aqidah, et les khawarij ont une aqidah, et les qadariyah ont une aqidah. D'accord? Tous ces gens-là ont une aqidah, sauf que leur aqidah, elle est batila, munharifa, dalla, elle est égarée, déviée et fausse. Et la seule aqidah qui est correcte, c'est la aqidah de l'islam, et en particulier à l'intérieur de l'islam, c'est la aqidah de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, la aqidah des salaf. Salaf, ce sont les sahaba, les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Parce que leur aqidah, ils l'ont pris directement du Coran et de la Sunnah, et ils ne l'ont pas pris d'autres sources ou d'autres origines ou d'autres références. Donc, il se base uniquement et spécifiquement sur la révélation divine, sur le Coran et la Sunna. Tandis que d'autres, parmi les gens qui ont dévié, ils se basent sur autre que la révélation. Soit ils se basent sur des livres qui ont été abrogés, ou des livres qui ont été falsifiés, comme les juifs et les chrétiens, par exemple. Ou bien, ils se basent sur une partie de la révélation seulement, et ils rejettent l'autre partie. Ou bien également, ils se basent sur des bases qui sont innovées, des fondements qui sont innovés, comme par exemple les soufis qui se basent sur leurs chouyours et les rêves de leurs chouyours, ou d'autres qui se basent sur la raison et la logique d'Aristote et de Platon et qui prennent ça comme fondement pour établir la croyance en islam comme si c'était une référence. Il laisse de côté les preuves révélées. Donc ça, c'est des exemples d'égarement par rapport aux références dans notre aqidah. Et la aqidah d'Ahl al-Sunnah, comme j'ai dit, elle est basée sur le Coran et sur la Sunnah seulement. D'accord? Et les preuves rationnel, hein, ça peut parfois yani, être mentionné, mais c'est toujours après la révélation. D'accord? On se base sur la révélation, puis on peut parfois rajouter des preuves rationnelles pour confirmer, hein, et supporter qu'est-ce que la révélation a établi. Mais c'est pas le contraire. Parce que le contraire, ça voudrait dire que on établit la aqida en se basant sur la logique et la raison et la philosophie, puis on confirme par la suite cette philosophie-là en se basant sur la révélation. Et le résultat de ça, c'est exactement ce qu'on retrouve dans les sectes qui ont dévié. Eh bien, c'est que s'ils trouvent dans la révélation des éléments qui sont en contradiction avec leurs principes, hein, s'ils trouvent dans le Coran et dans la Sunna des éléments qui sont en contradiction avec leurs principes philosophiques et rationnels, eh bien, ils vont déformer le sens des versets, déformer le sens des hadiths pour que ces versets et ces hadiths soient conformes à leurs idées, à leur philosophie, à leurs règles, hein, à leurs règles philosophiques, à leurs règles soi-disant rationnelles. Et donc, ils vont déformer la révélation à cause de ça. Comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyya, les gens de Kalam en général. Donc, ces choses-là, c'est très important de les comprendre et de les connaître pour éviter la déviation. Et juste pour nous faire comprendre en même temps l'importance du Tawhid, eh bien, on va mentionner quelques points. Parmi les points, yani, qu'on peut mentionner pour yani, nous faire comprendre à quel point la aqida est importante. Et parmi les points qu'on va mentionner, il y en a, yani, disons, quelques-uns qui vont être mentionnés. Il y en a à peu près 18, 17 ou 18 points qui vont être mentionnés pour montrer l'importance de la aqida. Donc, c'est des points qui sont assez simples et assez clairs et assez résumés, qui vont faire en sorte que on va apprécier encore plus yani, l'importance de la aqida en islam. Et bien entendu, si vous voulez, lorsqu'on parle de aqida, bien c'est sûr qu'on parle, hein, premièrement, pour comprendre le premier point, c'est l'importance de la aqida et de la foi. Hein, al-Iman et aussi al-Tawhid. Parce que la aqida de l'islam est basée sur al-Iman ou al-Tawhid. Et donc, il faut expliquer ces termes. Donc, al-Iman, c'est la foi en islam. Al-Iman, c'est le fait de croire et d'avoir la foi et la conviction. Et al-Iman, lorsqu'on parle de foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans le hadith de Jibril, il dit أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. C'est-à-dire de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier, en également la foi en la prédestination, ce que Allah Azzawajal a prédestiné de bien ou de mal pour la création. Donc ces principes-là sont les principes fondamentaux de la foi en islam. Et la foi en islam, comme les salafs l'ont défini, ils ont dit que c'est قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. C'est-à-dire que la foi en islam, c'est de comprendre qu'elle est composée, cette foi, de la parole de la langue, de la croyance du cœur et des actes du corps. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Donc si quelqu'un veut comprendre la réalité de la foi en islam, c'est ça qu'il doit comprendre. Et aussi de comprendre que l'islam et la foi en islam est basée sur le tawhid. Et le tawhid, c'est exprimé par la formule qu'on appelle la kalimat al-tawhid, la parole du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, le fait que Allah est unique et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et c'est exprimé par la paroles qu'on dit dans le premier pilier, parmi les cinq piliers de l'islam. La ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc la ilaha illallah, si on le traduit, ça signifie il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah seul. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est rejeté et faux. Donc le tawhid, les ulama l'ont expliqué en disant que il y a pour que le croyant soit un vrai muwahhid, c'est-à-dire pour que le croyant soit considéré comme réellement quelqu'un qui a cru en l'unicité d'Allah, eh bien, il y a trois aspects à ça. Premièrement, il doit reconnaître que Allah Azzawajal, il est unique dans sa souveraineté, dans le sens que c'est lui le seul créateur, c'est lui le seul pourvoyeur, c'est lui le seul qui crée, qui peut créer, c'est lui le seul qui fait vivre et qui fait mourir, et c'est lui le seul qui donne la subsistance, et c'est lui seul également qui contrôle tout ce qui se produit dans la création. C'est lui qui contrôle tout. Et sa volonté est au-dessus de toute autre volonté. Donc ça, c'est fondamental pour croire en Allah. Si quelqu'un prétend qu'il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre dans la création qui possède ces caractéristiques de seigneurie et de souveraineté, eh bien, ça veut dire qu'il a attribué à Allah un partenaire dans la seigneurie et dans la souveraineté. Et ça, c'est de l'idolâtrie et c'est du shirk dans la croyance. Ce qu'on appelle en arabe la rububiyya. Donc, il faut croire en l'unicité d'Allah, que Allah est unique dans la rububiyya. La deuxième partie ou le deuxième aspect qui est relié au tawhid, c'est que c'est pas suffisant de dire uniquement ou de croire uniquement que Allah Azzawajal, c'est lui le seul maître et le seul créateur. Et il faut aussi affirmer que il a les plus beaux noms et les plus belles qualités, les plus beaux attributs. Et personne parmi les créatures partage ces attributs-là. Il est le seul qui possède les attributs de perfection. D'accord? Et ça implique qu'il n'y a rien qui est comparable à lui. Et que Allah Azzawajal, on n'a pas le droit de lui attribuer des caractéristiques ou des attributs de sa création. Et on n'a pas le droit non plus d'attribuer aux créatures des attributs divins. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. Donc, s'il y a des noms, par exemple, parmi les noms qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, qui sont mentionnés comme attributs à Allah, et que ces noms-là sont également attribués à des créatures, par exemple, eh bien, il faut affirmer ces noms-là à Allah, mais en même temps, il faut nier toute comparaison. Dans le sens que si on dit par exemple que Allah Azzawajal, il est l'audient, celui qui entend tout, il est le voyant, celui qui voit tout, il est l'omniscient, celui qui sait tout, ça en arabe on dit, on utilise les termes en arabe qui sont mentionnés dans le Coran à ce sujet, que Allah il est al-Samir, et qu'il est al-Basir, et qu'il est al-Alim, et donc ça implique qu'il a la vue, qu'il a l'ouïe et qu'il a la science et que les attributs d'Allah Azzawajal sont parfaits. Il y a également ces caractéristiques-là qui existent chez les créatures, sauf que lorsqu'on les attribue aux créatures, elles ne sont pas comparables à Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il est parfait, tandis que les hommes, ils ont la vue, ils ont l'ouïe, ils ont la science, mais la science est limitée. La vue est limitée. Allah Azzawajal, lui, il est parfait. Sa vue est parfaite, son ouïe est parfaite, sa science est parfaite. Également, il est tout puissant, il a le pouvoir sur toutes choses. Et donc, tous les noms qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, et tous les attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, nous devons lui affirmer. Sans comparaison, sans ressemblance, sans non plus demander comment, et sans non plus chercher à nier ou déformer le sens des attributs d'Allah Azzawajal. Donc ça c'est l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Donc, Allah Azzawajal, c'est lui le créateur, et tout ce qui existe en dehors de lui, c'est la créature. Et il n'y a rien qui lui ressemble. Ensuite, le troisième élément parmi les éléments du tawhid, qui d'ailleurs, qu'est-ce qui est le plus important, c'est le tawhid dans l'adoration. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut dire, oui, moi, je crois que Dieu est unique, il y a un seul Dieu, hein? Et je crois que c'est lui seul qui a tout créé. Et c'est lui qui possède les attributs de perfection. Oui, j'accepte ça et je l'affirme. Mais quand il a des problèmes, ou quand il a un malheur ou un besoin, au lieu de se tourner à Dieu seul et de demander à Dieu directement, il va demander par l'intermédiaire de certaines créatures. Soit l'intermédiaire d'un ange ou d'un prophète, ou d'un homme parmi les hommes pieux, ou d'une femme parmi les femmes pieuses et vertueuses. Il va prier à ces personnes-là pour leur demander de rapprocher leur prière à Allah, ou de présenter leur prière à Allah, ou de même ils vont parfois même demander directement à ces personnes-là, hein, en disant, étant donné que ces hommes-là et ces femmes-là sont rapprochés d'Allah Azzawajal, donc, si je leur demande, eh bien, Allah va accepter, hein, parce que eux sont très rapprochés. Et c'est ce qu'ils appellent en arabe al-shafa'a, ou bien parfois ils l'appellent aussi al-wasita, hein, al-tawassut. Donc le fait de prendre entre soi-même et Allah un intermédiaire ou un intercesseur. Et ça, en islam, c'est considéré comme étant de l'idolâtrie, comme étant du shirk. Et celui qui fait ça, il a pris, hein, des divinités avec Allah Azza wa Jalla. Donc, c'est pas suffisant juste de croire que Dieu est unique. Regardez les chrétiens, hein. Ils disent que Jésus est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, et ainsi de suite. Et pourtant, ils prétendent être monothéistes. Et quand il prie à Jésus. Hein? Et il prie parfois au nom de Jésus. Il demande au nom de Jésus. Et il pense même parfois que si on ne demande pas au nom de Jésus, nos prières ne vont pas être acceptées. C'est-à-dire que pour eux, si tu adores Dieu directement, sans passer par Jésus, pour eux, ça ne sera pas valide. Allah al-musta'an. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Et il prie aussi parfois à Marie. Et il demande des choses à Allah en passant par Marie, la mère de Jésus. Et quand il prie, il dit « Sainte Marie, mère de Dieu ». Donc, Sainte Marie, il considère que Marie, c'est la mère de Dieu. Imaginez, si Dieu a une mère, est-ce qu'il a un père aussi? Et s'il a un père, est-ce qu'il a un grand-père, une grand-mère aussi, une famille, hein? Donc ça commence à ressembler un peu à la croyance des Grecs de l'Antiquité. Hein, les dieux de l'Olympe et les familles de soi-disant de divinités. Et ça, c'est du shirk, c'est de l'idolâtrie, il n'y a pas de doute. Et donc, il prie à des saints également. Il prie à des saints. Et dans l'Église catholique en particulier, ils ont des saints pour tous les jours de l'année. Et ils les prennent comme intermédiaires dans leur prière. Ils demandent à Allah. Et il prie à Jésus et il demande à Allah par l'intermédiaire des saints. Allah al-musta'an. Tout ça, en islam, c'est considéré comme de l'idolâtrie et du shirk. C'est le plus grand péché que quelqu'un peut commettre. Donc, pour nous, les chrétiens sont des idolâtres, ne sont pas des croyants. D'accord? Et tous les gens qui, même parmi les gens qui se disent musulmans, on a des groupes parmi les groupes qui se disent musulmans, comme les soufis. Et certains parmi eux, et beaucoup d'entre eux d'ailleurs, prient à des saints, soi-disant musulmans, hein, et ils les adorent en dehors d'Allah, ils les invoquent en dehors d'Allah, ils leur demandent la protection, ils leur demandent l'aide quand ils ont des problèmes, ils les appellent au secours, ils vont même parfois à leur tombe faire des sacrifices, faire des pèlerinages, et toutes sortes d'autres formes d'adoration qui leur sont vouées. Hein, c'est le culte des saints et ils considèrent que ça s'est permis en islam. ils ne connaissent pas la réalité de la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et par conséquent ils tombent dans l'idolâtrie et le shirk. Donc ça, c'est les trois fondements du tawhid. Si quelqu'un ne les a pas acceptés et compris correctement, eh bien il n'a pas une bonne aqida. Et pourquoi l'aqida est si importante et pourquoi ces éléments de la foi et du tawhid sont si importants? C'est parce que ça nous aide à connaître Allah et ça nous aide à pouvoir l'adorer, parce qu'on ne peut pas adorer Allah sans le connaître. Hein? Et pour le connaître, il faut connaître son tawhid, son unicité, et il faut avoir la foi et connaître avoir la foi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est impliqué par le fait d'avoir la foi. Parce que beaucoup de gens ont une foi, mais ils ont une foi qui est fausse. Allah Azza wa Jalla dit: "Walladhina amanu bil batili wa kafaru billah." Ceux qui ont cru en le faux et qui ont renié yani la foi en Allah. Donc quelqu'un peut avoir, comme quelqu'un peut avoir une aqida qui est fausse, il peut avoir une iman qui est fausse aussi. Donc l'iman peut être un iman sahih ou iman batil. D'accord? Comme la personne peut avoir un din, une religion qui est vraie et une religion qui est fausse. Hein? Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de foi qui est correcte, excepté la foi de l'islam et la aqida de l'islam, et la aqida en particulier qui est la aqida des salafs, la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Parce que la aqida qui est valide, c'est la aqida sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Tout ce qui est venu après, qui s'est détaché ou qui s'est distingué de ce que eux avaient comme aqida, alors ça veut dire que cette aqida, elle n'est pas correcte. Soit elle est complètement perdue, égarée, soit elle est partiellement déviée. Hein? Et donc, les personnes qui appartiennent à ces différentes croyances-là peuvent être égarés à des degrés différents selon l'éloignement qu'ils ont de la révélation. Parfois, ça peut les faire sortir même de la religion, et parfois, ça ne les fait pas sortir de la religion, mais ça les fait tomber dans des égarements très dangereux et très graves. Et on a posé la question dans le hadith rapporté selon Abu Huraira. On a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on lui a demandé, yani, ayyu l'a'mali afdal. Qala imanu billahi wa rasulihi. Donc on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure des actions? Et il a dit, la foi en Allah et en son messager. Donc ça nous montre que la aqida, c'est la meilleure des actions. Que si cette action-là n'est pas bonne, le reste ne sera pas bon. Si tu n'as pas une aqida, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu fais ta zakat, tu fais ton hajj, tu appliques tous les piliers de l'islam, et en plus de ça, tu t'abstiens de tous les péchés au monde, tu n'as pas tué, tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, tu n'as pas triché, tu n'as pas trahi, tu n'as pas fait aucun des grands péchés, tu n'as pas fait le zina, tu n'as pas mangé de porc, hein? Et tu as fait toutes les obligations, mais tu n'as pas établi la foi en Allah et le tawhid, alors rien de ça ne sera accepté d'Allah au jugement dernier. Donc la base de la religion, c'est la foi. Et si tu n'as pas la foi, et si ta foi n'est pas correcte, rien de tes croyances ne sera correct. Et on va mentionner à ce sujet-là plus de détails plus tard, Inch'Allah. Également, le deuxième point, c'est que tous les messagers, lorsqu'ils sont venus, ils ont commencé leur da'wa, leur appel et leur invitation à leur peuple par le tawhid en premier. C'est-à-dire que c'était la priorité pour eux. Il n'y avait rien de plus important dans l'enseignement qu'ils ont donné. Il n'y avait rien de plus important que le tawhid. Et ça, on le voit dans plusieurs éléments, dans plusieurs versets dans le Coran. Lorsque par exemple on voit que Allah Azza wa Jalla, il dit dans le verset 36 dans sourate An-Nahl, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. C'est-à-dire nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour leur dire adorez Allah seul et écartez-vous du tarout. Donc ça c'est la preuve que le tarout, déjà qu'est-ce que ça signifie? C'est tout ce qui est adoré ou qui peut être adoré par les hommes en dehors d'Allah. Donc si quelque chose est adoré en dehors d'Allah, c'est un tarout. Hein? Le shaitan c'est un tarout, les idoles sont un tarout. Et tout ce qui est suivi ou obéi dans ce qui contredit l'ordre d'Allah, c'est considéré comme étant un tarout aussi. Donc, les messagers, quand ils sont venus à leur peuple, ils ont commencé leur enseignement en disant ça à leur peuple. Adorez Allah seul et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et également, on a des exemples aussi dans d'autres sourates dans le Coran où Allah Azzawajal nous mentionne l'exemple des paroles des prophètes quand ils sont arrivés à leur peuple. Et entre autres, on voit dans le verset 25 dans sourate Al-Anbiya que Allah Azzawajal il dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. C'est-à-dire, nous n'avons envoyé avant toi, c'est-à-dire avant toi, ô Muhammad, de messagers, excepté que on leur a révélé de dire à leur peuple, rien ne mérite d'être adoré, excepté moi, alors adorez-moi. Donc ils disent à leur peuple que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, alors adorez Allah seul. Et ça c'est la priorité, c'est-à-dire que c'est la première chose à laquelle les messagers ont appelé leur peuple. Et aussi, on voit l'exemple du fait que le prophète Mohammed, quand il est venu à Quraysh, eh bien, il a commencé par le tawhid. Il leur a dit, « Qulu la ilaha illallah tuflihu ». Et c'était la priorité, c'est la première chose à laquelle il les a invités. Et quand il a envoyé parmi les sahabas certains d'entre eux pour enseigner l'islam à des gens, comme il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, et quand il l'a envoyé là-bas, il lui a dit, yani, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah ou an yaqulu la ilaha illallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit, je t'envoie à des gens du livre, c'est-à-dire des gens qui ont reçu un livre auparavant, la Torah et l'Injil, les juifs et les chrétiens. Donc que la première chose à laquelle tu les appelles soit le tawhid, l'unicité d'Allah, et de croire en la ilaha illallah. Et s'ils acceptent ça, alors tu peux les appeler par la suite aux autres piliers. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ensuite la salat, la zakat, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire que la première chose, c'est le tawhid. Il n'y a pas d'autre chose qui vient avant ça. Si quelqu'un n'a pas accepté le tawhid, même s'il accepte le hijab, même s'il accepte l'interdiction du porc, même s'il accepte la salat, ça n'aura aucune valeur s'il n'a pas accepté en premier le tawhid. Troisième point, c'est que Allah Azza wa Jal, il a ordonné le tawhid à tous les hommes, sans exception. Donc l'islam, c'est la religion que Allah a envoyée à tous les messagers. Donc c'est pas seulement la religion du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est la religion de tous les prophètes. Depuis le premier homme, Adam, jusqu'au dernier, ils ont tous cru en cette religion-là qui est l'islam. Et l'islam signifie la soumission à Allah, la soumission au Créateur. Et donc, tous les prophètes ont cru en la soumission et ont mis en pratique la soumission à Allah. Il n'y a aucun messager qui a prêché autre chose que la soumission à Allah Azza wa Jal. Et la soumission ou l'islam est basé sur l'unicité d'Allah, le tawhid, et le fait que seul Allah mérite d'être adoré. Donc la religion de tous les prophètes, Adam, Noé, Abraham, Moïse, et ses fils, Jacob et ses fils, les 12 fils qu'il a eus, entre autres Yusuf alayhi salam, Joseph et Isaac, Isaac qui était le père de Jacob. Il a eu aussi non, pardon. Jacob qui était le père d'Isaac et de Ismaïl. Donc c'est ça. Isaac a été le père de Jacob, oui, c'est ça. Donc Abraham a eu Isaac et Ismaïl. Et Isaac est le père de Jacob. Et Jacob, c'est lui qui a eu les 12 fils, qui sont les 12 tribus, hein, qu'on appelle les tribus d'Israël, Bani Israël. D'accord. Tous ces prophètes-là, tous ces hommes-là sont venus avec l'islam, c'est-à-dire la soumission à Allah Azzawajal. D'accord? Et également, par la suite, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que, c'est ça, les descendants de la descendance de Ishaq, il y a eu, les prophètes de Bani Israël, et de la descendance de Ismaïl, il y a eu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, tous les deux sont descendants, tous ces prophètes-là sont descendants de Abraham. Et ils sont, comme on l'a dit, tous venus avec l'islam. Il n'y a pas un prophète, même Jésus, hein, Jésus, en lequel les chrétiens prétendent croire, eh ben, même lui, quand il est venu, il n'a pas enseigné autre chose que l'islam. Il a enseigné aux hommes d'adorer Allah seul et de croire en Allah et de ne pas associer avec lui. Malheureusement, les chrétiens, par la suite, ont déformé son message. Allah Azzawajal, il dit dans le Coran, le verset 19 dans Sourate Muhammad, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Donc la première chose que les hommes doivent faire, c'est de connaître que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Ça, c'est la priorité pour tous les hommes. Et il mentionne également dans le verset 5, dans Surat Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Donc, il n'avait été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur et en étant des hunafa. Hunafa, c'est le pluriel du mot hanif. Et le hanif, c'est la personne qui se tourne uniquement vers Allah et qui se détourne de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et ça, c'est la religion d'Abraham. C'est la religion d'Abraham qu'on appelle al-hanifiyya, c'est-à-dire le pur monothéisme. Et c'est ça la religion de tous les prophètes. Et le tawhid, c'est le droit d'Allah Azzawajal. Ça, c'est le quatrième point. Le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et ça, c'est mentionné dans le hadith de Mu'adh, encore une fois, un autre hadith de Mu'adh, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, est-ce que tu connais le droit que Allah a sur ses serviteurs? Et quand il répond après, il lui dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul sans rien ne lui associer. C'est-à-dire sans rien associer avec lui dans la croyance ou dans l'adoration. D'accord? Donc ça, c'est un droit exclusif d'Allah Azzawajal. Le point numéro 5, c'est que le tawhid, comme on l'a dit, c'est la religion d'Abraham. Et Allah Azzawajal, il ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et à toute sa umma, sa nation, de suivre la religion d'Abraham, qui est Al-Hanifiyya. Il dit dans le verset 123 dans Surat Al-Nahl, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham, de te tourner uniquement vers Allah et de te détourner de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et parce que c'est ça la religion d'Abraham, d'être un hanif. Donc suis la religion d'Abraham en étant un hanif. Et il n'était pas du nombre des mushrikin, c'est-à-dire du nombre de ceux qui donnent à Allah des partenaires. Non, qui donnent des partenaires dans la croyance et dans l'adoration. Ensuite, il dit, yani Allah Azzawajal, dans un autre verset, le verset 35, dans Surat Ibrahim, il mentionne que Ibrahim alayhi salam faisait des doigts. Il demandait à Allah Azzawajal de le protéger de l'idolâtrie et de l'adoration des idoles. Alors que c'est lui le prophète qui a détruit les idoles de son peuple avec sa main. Parce que Ibrahim alayhi salam, il vient de Babylone, hein, de la région de Babylone. Et dans cette région, les gens priaient à des statues et à des idoles et à des étoiles et des choses comme ça. Et lui, il est né parmi ces gens-là. Et son père lui-même fabriquait les idoles. Et puis, il les a brisées avec sa main. Et il a failli être tué à cause de ça, justement. Puis Allah Azzawajal l'a sauvé. Ils ont voulu le brûler. Et Allah Azzawajal l'a sauvé. Et il s'est écarté par la suite. Il est parti. Il a quitté ce peuple et il est parti pour adorer Allah Azzawajal et établir la religion d'Allah Azzawajal. Et il dit dans son invocation, « Oh Allah, écarte-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Donc si Ibrahim alayhi salam demande à Allah de le protéger contre l'idolâtrie, lui et ses enfants, et qu'il avait peur de faire du shirk, alors nous, on devrait encore plus faire attention et s'écarter de ça. Parmi les points également importants qui ont rapport avec l'importance de la aqidah, il y a le fait que le tawhid, c'est une condition pour que nos œuvres soient acceptées d'Allah Azzawajal. Et que si quelqu'un n'a pas établi le tawhid et n'a pas la bonne aqidah, eh bien ses œuvres ne seront pas acceptées, elles seront vaines. Et ça, c'est établi dans plusieurs versets dans le Coran. Et il dit, par exemple, dans le verset 94, dans Surat Al-Anbiya, il dit, « فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ » Donc, celui qui fait des bonnes œuvres et qui est croyant, alors, il n'y a rien qui va nier son effort. Et certes, yani, nous écrivons ce qu'il fait. Donc, Allah Azzawajal écrit ses œuvres. Et il y a les anges qui sont assignés pour écrire nos œuvres. Et donc, ici, dans ce verset-là, il dit « Quiconque fait des bonnes œuvres alors qu'il est croyant. » Donc, ça, c'est pour comprendre ce verset-là, il faut savoir que les bonnes œuvres, eh bien, qu'est-ce que c'est les bonnes œuvres? Pour que les œuvres soient bonnes, il faut qu'elles soient en accord avec deux conditions. La première, c'est qu'elles soient faites avec ikhlas, que ce soit établi sur le tawhid. Donc, ton action, tu dois la faire uniquement pour Allah et tu ne dois pas associer ou donner à Allah des partenaires dans ton adoration. Si tu adores d'autres que Allah ou tu fais du shirk, toutes tes œuvres seront vaines. Et tu dois épargner ou t'écarter de toute forme d'idolâtrie ou de shirk, que ce soit du shirk majeur, comme l'adoration d'autre que Allah, ou le fait d'offrir une adoration quelconque à autre que Allah Azzawajal, ou le fait de faire de l'ostentation dans tes œuvres, comme le shirk mineur, et le fait de faire des œuvres pour te faire glorifier par les gens ou remarquer par les gens. Alors ça, c'est du shirk mineur. Et ça annule la validité de tes actions. Ensuite, parmi les preuves aussi à ce sujet-là, il y a par exemple le verset dans Surat Al-Kahf, le dernier verset, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc si quelqu'un espère en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse une œuvre qui est bonne, c'est-à-dire qu'il fasse une action qui est en accord avec la charia du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, donc en accord avec sa sunna. Donc il ne va pas adorer Allah par des innovations, des bid'ah, et il va vouer un culte pur à Allah Azzawajal, il ne va pas faire de shirk dans ses actions. Donc ça, c'est les conditions pour que ses œuvres soient valides, et toute personne qui ne respecte pas ça, eh bien ses œuvres seront nulles, vaines. Comme il mentionne dans le verset 65 dans Surat Az-Zumar, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Le verset 65 dans Sourate Az-Zumar, Allah Azzawajal dit ce qui signifie: et nous avons révélé à toi ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi que si tu fais du shirk, tes œuvres vont être vaines. Allah va annuler toutes tes œuvres, va les rendre vaines, et tu serais du nombre des perdants. Et ça c'est répété dans plusieurs versets dans le Coran. Allah Azzawajal, il dit par exemple: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنْثُورًا. C'est-à-dire, on va considérer ce qu'ils ont fait comme action et on va les transformer en de la poussière frappée violemment par le vent. Subhanallah. Il y a d'autres versets aussi dans lesquels Allah Azzawajal, il parle des messagers et des prophètes et il dit: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est-à-dire que s'ils avaient fait du shirk, toutes leurs œuvres auraient été rendues vaines. D'accord? Et ça, c'est les messagers. Donc, si ça, c'est vrai pour les messagers, c'est vrai pour le reste du commun des hommes. Et également, parmi les preuves, il y a les versets comme par exemple, dans lesquels Allah Azzawajal dit, il dit: مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ. C'est-à-dire, l'exemple des mécréants, leurs œuvres sont comme de la cendre, de la cendre qui est frappée par un vent dans un jour de tempête. Donc c'est pour dire que leurs œuvres n'ont aucun poids, n'ont aucune valeur au jour de la résurrection. Même si dans la vie ils avaient fait plein de bonnes actions, aucune de ces actions-là ne sera acceptée. Exemple aussi d'un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jalla compare les œuvres des mécréants à un mirage. Il dit: مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ. Donc c'est pour montrer à quel point leurs œuvres sont invalides. Et il est important aussi de comprendre que lorsqu'un serviteur établit sa aqida, eh bien c'est ce qui va lui apporter le bonheur dans cette vie d'ici-bas et bien entendu dans l'au-delà, et qu'il ne trouvera jamais de repos, ni de tranquillité, ni de bonheur sans avoir établi sa aqida, sa croyance en le fait que Allah Azzawajal c'est le seul Seigneur et qu'il est cru en ses noms et en ses attributs, en ses actions, les actions d'Allah Azzawajal avec sincérité, et qu'il ait établi cette croyance-là dans son cœur. Et à ce sujet-là, on peut citer la parole de Ibn Taymiyyah, un des grands savants de l'islam, qui dit: حَجَةُ الْعَبْدِ إِلَى الرِّسَالَةِ أَعْظَمُ بِكَثِيرٍ مِنْ حَجَةِ الْمَرِيضِ إِلَى الطِّبِ فَإِنَّ آخِرَ مَا يُقَدَّرْ بِعَدَمِ الطَّبِيبِ مَوْتُ الْأَبْدَانِ. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. Donc il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que le serviteur il a plus besoin du message de la révélation que d'un médecin lorsqu'il est malade. Il dit parce que le pire qui puisse se produire du fait de ne pas avoir un médecin lorsque tu es malade, c'est la mort du corps. Ton corps, tu vas mourir. Et il dit tandis que si tu n'as pas obtenu la lumière de la révélation et la vie que cette lumière procure, eh bien ton cœur va mourir. Et la mort du cœur, une fois que ton cœur est mort, eh bien, il n'y a aucune vie qui puisse être espérée par la suite. Et la personne qui n'a pas connu cette lumière-là, eh bien, elle va être malheureuse d'un malheur qui ne peut jamais être suivi par aucun bonheur. Puisque Il risque par la suite, s'il n'a pas eu la foi et la lumière de la révélation, il ne l'a pas connue. Donc, sa destination dans l'au-delà, c'est l'enfer. Allah al-Musta'an. Parmi les éléments importants qui montrent l'importance de la aqida, c'est que lorsqu'une personne est sur le tawhid, ça lui facilite les bonnes œuvres et ça l'aide à s'écarter des péchés. Hein? Et ça l'aide également à accepter plus facilement les malheurs et les difficultés qui se présentent dans sa vie. Et on voit ça clairement dans le fait que le croyant, étant donné qu'il a la foi en Allah et qu'il est sincère envers Allah et qu'il a cru en l'unicité d'Allah, eh bien, les adorations deviennent plus faciles pour lui. Hein? Parce qu'il croit en la récompense de ses bonnes œuvres et il espère l'agrément d'Allah. De même que le fait de délaisser les péchés c'est beaucoup plus facile pour lui de les délaisser parce que il craint son Seigneur, il craint sa colère et son châtiment. D'accord? Donc, plus le serviteur va compléter sa foi en l'unicité d'Allah, le tawhid, eh bien, il va y avoir plus de facilité aussi à supporter les douleurs. Hein? Et son âme va rester en paix, même face à des difficultés ou à des épreuves, parce qu'il sait que tout ce qui lui arrive fait partie de ce que Allah a prédestiné pour lui. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et si vous regardez les pays, par exemple, si vous comparez les pays des gens qui sont sur le tawhid et les pays dans lesquels les gens sont sur le shirk, eh bien, vous allez constater que les gens qui vivent dans les pays du tawhid et de la foi, eh bien, les péchés dans ces pays-là sont beaucoup moins répandus. Tandis que dans les pays où il y a le shirk et les bid'a, eh bien, on voit que les gens dans ces pays-là font beaucoup de péchés, plus que dans les autres. Pourquoi? Parce que souvent, ces gens-là, eh bien, étant donné qu'ils n'ont pas cru en le tawhid, ils vont tomber dans des extrêmes. Et c'est ça qu'on voit par exemple chez les chrétiens. Quand ils disent par exemple, Jésus est mort pour nos péchés. Donc ça veut dire, puisqu'il est mort pour nos péchés, on va faire plus de péchés. Puisqu'il n'y a plus de, il y a plus de, hein, plus de problèmes. Nos péchés sont pardonnés parce que Jésus est mort pour nous. Hein, soi-disant. Alors qu'en réalité, chaque âme sera responsable de ses propres péchés et personne ne peut prendre sur lui les péchés de quelqu'un d'autre. Hein? Et ça, c'est établi même dans le livre des Juifs et des Chrétiens. Donc, ils sont en contradiction même avec l'enseignement de leur propre livre. Et ça, c'est connu. Également, parmi les éléments qui montrent l'importance de la aqidah, c'est que lorsqu'une personne a établi le tawhid, eh bien, elle va être libérée de la servitude à d'autres créatures, ou de s'accrocher à d'autres créatures, ou de craindre et d'espérer en d'autres que Allah. Donc, le tawhid, c'est une aqida. Lorsque la personne l'a compris correctement, eh bien, c'est une aqida qui libère le serviteur de toute forme de servitude et d'adoration d'autre que Allah. Parce que tu ne crains que lui et tu n'espères que en lui, hein, et tu ne te repens que à lui. Et si tu as besoin d'être pardonné pour un péché, t'as pas besoin de demander à un prêtre ou à quelqu'un. Tu demandes à Allah, c'est lui qui te pardonne. Tu te repens à lui seul. Et ça, c'est une croyance qui est libératrice. Donc ça montre l'importance du tawhid. Parmi les éléments aussi qui montrent l'importance du tawhid, c'est que Allah Azzawajal, lorsque quelqu'un est sur la foi et sur le tawhid, il lui garantit et il se charge de le défendre et de lui donner la victoire dans ce bas monde. Et Allah Azzawajal, il le mentionne à ce sujet dans plusieurs versets dans le Coran. In tansurullaha yansurkum. Si vous venez au secours de sa religion, le tawhid et la sunna, vous défendez sa religion, il vient à votre secours et il vous défend. Il dit aussi, dans plusieurs versets, par exemple, Allah Azza wa Jalla, il dit, par exemple, des versets dans lesquels il mentionne qu'il va donner la victoire aux croyants, hein, et qu'il vient au secours des mu'minines. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Parmi les versets à ce sujet, il y a celui-là. Et beaucoup d'autres également, dans lesquels il mentionne qu'il vient au secours de ses serviteurs pieux qui sont sur sa religion. Également, le tawhid, parmi ses mérites, il y a le fait que ça facilite l'unicité et le fait de rester accroché, hein, à la jama'a, rester unis, de ne pas se diviser. Donc on voit que les gens du shirk, c'est eux qui ont plus de facilité à se diviser, tandis que les gens du tawhid, c'est eux qui ont plus de facilité, hein, à s'unir. Et en particulier lorsqu'ils s'accrochent à la sunna aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque la sunna nous ordonne, hein, de même que le Coran nous ordonne, à rester unis et à ne pas se diviser, hein, et à se rassembler autour des dirigeants musulmans et d'établir le djihad pour élever la parole d'Allah, ordonner le bien et interdire le mal. Et ça a toujours été la force de l'islam dans le passé, de même que à l'époque actuelle. Parmi les éléments qui montrent aussi l'importance du tawhid, c'est que au jour de la résurrection, les croyants seront en sécurité du fait qu'ils ont cru en l'unicité d'Allah, tandis que les mushrikoun et les kuffars, eh bien, ils seront dans la crainte. Et Allah Azzawajal, il mentionne justement dans ce sujet, le verset 82 dans Sourate Al-An'am, il dit: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Il dit: ceux qui ont cru et qui n'ont pas couvert leur foi par de l'injustice, ceux-là sont ceux qui auront la sécurité dans l'au-delà et qui seront bien guidés dans ce bas monde. Et le dhulm, l'injustice ici, il s'agit du shirk, le fait de donner à Allah des partenaires et d'adorer d'autres que Allah. Et la preuve de ça, c'est dans Sourate Al-An'am, pardon, dans Sourate Luqman. Sourate Luqman, Allah Azzawajal, il dit dans ce verset: Inna shirka la dhulmun azim. Certes, le shirk, c'est la plus grande injustice. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, yani, fait du shirk, eh bien, il commet la plus grande injustice. Et ceux qui couvrent leur foi d'injustice, hein, ils n'auront pas de sécurité au jour de la résurrection. Tandis que ceux qui n'ont pas couvert leur foi d'injustice, c'est-à-dire de shirk, eh bien, eux, ils auront la sécurité au jour de la résurrection. Naam. Et également, parmi les éléments importants à mentionner par rapport à ça, c'est que parmi les choses qui montrent l'importance de la aqida, c'est que la aqida, elle fait en sorte que nos œuvres sont multipliées. Allah, il va nous récompenser et nous faire preuve de sa grâce. Hein? Donc, même si on fait peu d'actions, même si les gens du tawhid et les gens de la sunna font peu d'actions, eh bien, ces actions-là seront remplies de bénédictions. Et Allah va les récompenser en multipliant la valeur de ces œuvres-là. D'accord? Donc, même s'ils font moins de bonnes actions comparé aux kuffars et aux mushrikines, qui eux, par exemple, en apparence, peuvent avoir l'air de faire beaucoup d'actions, sauf que ces actions qu'ils font, même si elles sont beaucoup, elles sont en grande quantité, mais elles ne sont pas acceptées. Et on a des hadiths à ce sujet-là, comme le hadith rapporté selon Abu Huraira. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque quelqu'un parfait son islam, hein, et pratique son islam correctement, chaque bonne action qu'il fait sera écrit 10. Hein? C'est comme si ses actions seront multipliées pour lui. Tandis que yani, la personne qui fait par exemple, s'il fait un péché, ce sera juste écrit un seul péché. Mais s'il fait une bonne action, ce sera écrit fois 10. D'accord? Donc ça, c'est pour montrer yani, la grâce d'Allah Azzawajal, comment il est généreux envers ses serviteurs. Il les punit pas pour qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, et il ne leur rajoute pas de punition ou de péché pour ce qu'ils font de mal. Un péché égale à un péché. D'accord? Tandis que la bonne action, elle n'équivaut pas à une bonne action, elle équivaut à 10 ou plus, comme c'est mentionné dans d'autres hadiths qu'on va mentionner aussi. Donc ici, Ibn Rajab, il parle de ce sujet-là. Il dit, قال Ibn Rajab, مضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون بحسب حسن الإسلام كما جاء ذلك مصرحا به في حديث أبي هريرة وغيره وتكون بحسب كمال الإخلاص وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه وبحسب الحاجة إليه. Donc ici dans ce hadith ou bien dans cette explication du hadith, Ibn Rajab il dit que la multiplication des hasanat et l'augmentation du fait que la personne ait 10 fois plus de récompenses ou plus que ça encore, c'est selon la façon dont la personne applique bien son islam et pratique bien son islam. Et aussi, donc ça c'est mentionné également dans ce hadith-là et dans d'autres, le hadith d'Abi Huraira qu'on vient de mentionner et dans d'autres hadiths aussi. Donc plus la personne est sincère, plus la personne, yani, elle fait des bonnes œuvres et elle s'applique dans le bien qu'elle fait, et bien plus Allah Azzawajal va lui multiplier ses œuvres. Il y a le hadith d'Abdullah ibn Abbas aussi, dans lequel il est mentionné que yani, Allah Azzawajal, il dit « Inna Allah kataba al-hasanat wa sayyat, thumma bayana dhalik, faman hamma bi hasanatin, falam ya'malha, katabaha Allah lahu indahu » حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعف كثيرة. Donc Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه il explique que يعني le prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné que son seigneur a dit, certes Allah a écrit les bonnes actions et les mauvaises. Et il a expliqué cela, il a dit, si quelqu'un, par exemple, aspire à faire une bonne action et qu'il ne la fait pas, ce sera écrit pour lui comme une bonne action, juste parce qu'il a eu l'intention de le faire. Puis, s'il a aspiré à faire une bonne action et qu'il l'a fait, eh bien, Allah va lui écrire 10 fois cette bonne action-là, jusqu'à 700 fois et jusqu'à plus que ça encore. Donc, ça veut dire que les bonnes œuvres sont multipliées. Et un des savants de l'islam, Ibn al-Arabi al-Maliki, il dit dans l'explication de ce hadith-là, il dit « ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَىٰ حَسْبِ مَا يَعْلَمُ مِنَ الصِّدْقِ فِي النِّيَّاتِ وَخُلُوصِ الطَّوِيَّاتِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْخَيْرَاتِ وَالْمُوَاضَبَةِ عَلَىٰ الصَّالِحَاتِ » Donc il dit ça, c'est la grâce d'Allah Azza wa Jal, selon ce qu'il connaît de la sincérité de l'intention, de la pureté de l'intérieur de la personne et de son désir des bonnes choses et de son assiduité dans les bonnes œuvres. Et Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, il explique aussi ce principe-là. Il dit « Min asbab al-muda'afa wa huwa aslun wa asasun lima taqaddam sihhatu al-aqida wa quwwatu al-iman billahi wa sifatih wa quwwatu iradati al-abd » ورغبته في الخير فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم أو تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها لا ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة. ولهذا كان السلف يقولون أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. Donc, le Cheikh Saadi, il dit parmi les causes de la multiplication de la récompense pour nos œuvres, il dit que ça c'est un fondement et une base de ce qui a précédé. C'est la validité de la aqidah. Si ta croyance elle est bonne, ta aqidah elle est bonne, ta foi elle est forte, la foi que tu as en Allah et en ses attributs, la force de la volonté du serviteur, son désir, la force de son désir de faire le bien, c'est ça ce qui va faire en sorte que ses actions vont être multipliées. Car les gens de la sunna et de la jama'a qui sont sur la sunna pure, ou bien les gens de la science qui ont une connaissance complète des noms d'Allah et de ses attributs et une force de foi en la rencontre d'Allah Azzawajal, leurs œuvres seront multipliées de nombreuses fois. Et ça ne peut pas être le cas pour une personne qui n'a pas été avec une foi comparable ou une aqidah comparable à leur foi et leur aqidah. C'est pourquoi les salafs, ils disaient que les gens de la sunna, même s'ils font peu d'actions, leur croyance, elle se tient pour eux. Tandis que les gens de bid'ah, même s'ils font beaucoup d'actions, leur croyance, rabaisse la valeur de ces actions-là. Donc c'est comme si en voulant dire que lorsque les gens de la sunna ont établi la aqidah qui est valide et correcte, Allah Azza wa Jalla, il fait en sorte que leurs œuvres, les gens de la sunna, leurs œuvres sont multipliées dans la récompense, même s'ils font peu d'actions. Tandis que les gens de bid'ah, même s'ils font beaucoup d'actions, leur récompense, elle est diminuée parce que ils n'ont pas une bonne aqidah. Allah al-musta'an. Également, une chose importante aussi, qui montre le mérite de la aqidah, c'est le fait que le tawhid, c'est quelque chose qui fait que Allah Azza wa Jal, il efface les péchés de ses serviteurs à cause du tawhid. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith, il dit dans le hadith al-Qudsi, يقول الله عز وجل من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بشيء لقيته بمثلها مغفرة. Donc il dit, celui qui me rencontre au jour de la résurrection et qui a des péchés aussi grands que la terre, il dit, du moment qu'il n'a pas fait de shirk avec moi, il n'a pas donné de partenaire dans l'adoration, il ne m'a pas donné de partenaire dans son adoration, je vais le rencontrer avec son équivalent de pardon. Subhanallah. Et donc ça veut dire que même si tu as des péchés aussi grands que la terre, si tu meurs sans faire du shirk, Allah il va te pardonner un pardon aussi grand que la terre. Et aussi le verset dans le Coran dans lequel Allah Azza wa Jal dit إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Il dit certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne à qui il veut tout autre péché qui est moindre que le shirk. Donc ça veut dire que si tu fais des grands péchés comme le meurtre, le vol ou n'importe quel autre crime et que tu meurs sur ces péchés-là sans te repentir, sans avoir fait de shirk avec Allah, tu es sous la volonté. Ça veut dire que Allah, au jour de la résurrection, il pourra décider, selon sa miséricorde, de te pardonner, ou selon sa justice, de te châtier. Et s'il décide de te châtier, tu vas rentrer en enfer, et il va te purifier de tes péchés, mais il ne va pas te laisser brûler en enfer pour l'éternité, parce que tu es mort sur le tawhid. Donc éventuellement tu sortiras de l'enfer pour rentrer au paradis. Tandis que si tu meurs sur le shirk, c'est garanti pour l'enfer éternel à ce moment-là. Donc ça nous montre le mérite du tawhid, et que si quelqu'un meurt sur le tawhid, ça veut dire qu'il va rentrer au paradis, soit directement ou soit éventuellement. Et aussi, parmi les éléments qui montrent l'importance de la aqida, c'est que ça fait entrer au paradis, comme on a mentionné ici, et que ça protège de l'enfer. Tandis que le shirk, ça fait rentrer en enfer, et ça interdit à quelqu'un le paradis. Et Allah Azzawajal, il dit dans le Coran, il dit وَلَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Et quiconque fait le shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Il va aller en enfer, et dans l'au-delà, sera du nombre des perdants. Et les injustes n'auront pas de secoureur. Donc il y a plusieurs versets dans ce sens-là. Et parmi les versets qui montrent que celui qui meurt sur le tawhid, il va au paradis, les hadiths comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man shahida an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila maryam, wa ruhun minhu, wa anna aljannata haqq, wa anna annara haqq, أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. » C'est-à-dire, quiconque témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, sans aucun partenaire, et que Muhammad est son serviteur et son messager, et que Isa est son serviteur et son messager, une parole que Allah a mis en Maryam, c'est-à-dire quand il a ordonné Aïssa d'exister, il lui a dit soit et il fut, et une âme venant de lui, c'est-à-dire une âme qu'il a créée, et que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, Allah va lui faire rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action. Donc ça veut dire, même s'il avait peu d'action, du moment qu'il est mort sur le tawhid et qu'il a témoigné du tawhid, il va rentrer au paradis. Et le hadith du prophète qui dit man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Celui qui meurt sans avoir fait de shirk avec Allah, il entrera au paradis. De même que les hadiths qui mentionnent que quiconque a établi le tawhid et l'aqida, il va être empêché d'entrer en enfer. Comme c'est mentionné selon Utban ibn Malik, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. C'est-à-dire que Allah a interdit l'enfer à celui qui dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, en recherchant par cela le visage d'Allah, c'est-à-dire avec sincérité. Et aussi c'est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit: إذا دخل أهل الجنة. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. Donc c'est-à-dire que lorsque les gens du paradis vont rentrer au paradis, que les gens de l'enfer vont rentrer en enfer, eh bien Allah Azza wa Jalla va dire par rapport à ceux qui sont en enfer: faites sortir de l'enfer celui qui avait le poids d'une graine de moutarde de foi. Faites-le sortir de l'enfer. Donc ça veut dire que du moment qu'une personne a du tawhid en lui, même si c'est juste une graine de moutarde, qui n'a pas fait de shirk, il va sortir de l'enfer. Soit par miséricorde d'Allah, ou bien par l'intercession des intercesseurs, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou les prophètes, ou les anges qui vont intercéder pour lui. Et également le fait que justement ça fait partie aussi du mérite du tawhid, c'est que la personne qui va être heureuse, le plus heureuse de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection, c'est la personne qui a dit
La ilaha illallah avec pureté et sincérité dans son cœur. As'ad al-nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Donc ça, c'est ce qui conclut ce que je voulais expliquer par rapport à l'importance de la aqida. Et alhamdoulillah, yani, c'est des rappels qui sont très très importants pour nous les musulmans de comprendre ça, parce que malheureusement beaucoup de musulmans à notre époque négligent l'importance de la aqida, et ils pensent même parfois que le fait de parler de tawhid et de aqida, ça divise les musulmans, donc ils s'écartent de ces sujets et refusent d'en parler. Et à cause de ça, les musulmans restent dans l'ignorance, et parfois même ils vont s'égarer à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas appris la aqida. Et ils se concentrent sur d'autres éléments qui ne sont pas aussi fondamentaux. Et à cause de ça, yani, beaucoup de gens sont restés ignorants à propos de leurs croyances. Donc on demande à Allah Azzawajal de nous donner la sincérité et l'ikhlas dans nos paroles et dans nos actions, d'accepter de nous le bien qu'on fait, et de nous pardonner nos péchés, et de nous faire entrer dans son paradis, de nous faire mourir sur le tawhid et sur la sunna. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.